Et c'est parti pour notre pressing du jour à 5h17 avec, pour commencer, la une de vos journaux et la tragédie indienne en première page du gratuit 20 minutes qui revient sur les causes de l'explosion spectaculaire de l'épidémie de Covid en Inde, émergence d'un nouveau variant, vétusté du système de santé et une situation résumée en photo par ce regard épuisé d'une femme sous oxygène. Le Figaro salue, lui, l'Europe qui passe enfin à l'action sur le plan de relance contre la crise liée à la pandémie. La mise en œuvre effective du plan de 750 milliards d'euros franchit une étape clé aujourd'hui à Bruxelles avec la remise par la France, l'Allemagne et l'Italie, les trois plus grosses économies de l'UE, de leur feuille de route pour pouvoir bénéficier de ces aides qui devraient arriver d'ici l'été. On en parle moins et pourtant elles arrivent. Les élections départementales sont à la une de la Provence. Et oui, dans un mois, les 20 et 27 juin, on votera pour les régionales, mais aussi pour renouveler les dirigeants de nos départements. Et c'est important car ils ont la main sur la voirie, les collèges ou encore les aides sociales. Rappel utile de tout ce qu'il faut savoir, c'est donc dans le quotidien provençal. Que pense vraiment le pape François sur la question de l'homosexualité? Ça, c'est un passionnant dossier à découvrir dans La Croix, qui a enquêté sur la façon dont le souverain pontife travaille sur le sujet. C'est, vous le savez, très sensible pour l'Église catholique. Qui suis-je pour juger? Avait notamment dit le pape François il y a 8 ans. Pape François entre volonté d'ouverture mais refus de rompre avec les plus dogmatiques. C'est à retrouver dans La Croix. Enfin, vous nous en parliez il y a quelques secondes, Axel May. Le Parisien anticipe déjà sur le match au sommet demain soir entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions avec une manchette qui résume bien ce face-à-face, le match des milliardaires entre fonds qataris et émiratis. Place à présent aux trois histoires qui attirent notre attention ce matin. Et donc Axel, François Pinault lance un appel au monde du vin pour un projet de reprise.
Oui, le richissime homme d'affaires a adressé une lettre ouverte à ses collègues propriétaires de grands crus bordelais qu'il a transmise au journal Sud-Ouest, mais aussi à l'équipe. 27e fortune mondiale, rappel Sud-Ouest. Hein. François Pinault, 84 ans, est notamment propriétaire du Château Latour, premier grand cru classé de Pauillac en Gironde. Donc, depuis 1998, le fondateur du groupe de luxe Kering, ex-Pinault, un printemps en redoute, est également le grand patron du Stade Rennais, et qui est d'ailleurs le Stade Rennais, le prochain adversaire des Girondins dimanche en championnat.
En Ligue 1.
Bref, lâché jeudi dernier par leur propriétaire américain King Street, placé sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux, les Girondins sont un monument en péril. Et pour François Pinault, amoureux du vin et du football, écrit Sud-Ouest, l'heure doit être à la mobilisation.
Et alors, qu'est-ce qu'il écrit, François Pinault, dans cette lettre?
Suspense. Je pense que l'existence du club mythique est importante pour Bordeaux, hein, ce club mythique, son rayonnement. Quelle est la force économique qui, dans cette région, peut se donner l'objectif de sauvegarder les Girondins et de les développer? Le monde du vin, et en particulier les propriétaires de grands crus, écrit François Pinault. Alors, il explique aussi que son groupe étant l'actionnaire unique du Stade Rennais, il ne peut pas lui mettre la main à la poche,
ça,
mais qu'il est prêt à apporter son soutien à toute opération montée par les acteurs du vin. Et dans le journal de 6h, vous entendrez la réponse d'un grand propriétaire de vin à cette invitation de François Pinault.
Quel suspense et quel teasing. Merci beaucoup Axel May. Je vous parle, moi, ce matin, de cette enquête de Libération qui donne des détails assez effarants sur une affaire dont on vous avait parlé il y a quelques temps sur Europe 1, d'agents de la DGSE, le renseignement extérieur, arrêtés pour avoir planifié des assassinats ciblés qui n'avaient rien à voir avec des missions d'État. Eh bien, on apprend dans Libé aujourd'hui que ces ripoux, ces tueurs à gages, sont passés totalement à travers les procédures de contrôle qui auraient dû permettre à la DGSE de les repérer et de les faire arrêter. Pierre B et Karl E sont affectés depuis plusieurs années au centre parachutiste de Sercotte dans le Loiret. Ils se rêvent espions, agents d'élite, mais en réalité, ils les côtoient seulement, ces héros. Eux sont des plantons, hein, des gardes-barrières qui assurent le contrôle des entrées sur le site. Pourtant, quand ils sont arrêtés au volant d'une voiture il y a quelques mois, alors qu'ils s'apprêtent à aller abattre une femme, ils assurent agir dans le cadre d'une mission venant du plus haut sommet de l'État. Évidemment, il n'en est rien. Et Libération révèle comment ces deux petites frappes ont fini par monter de toutes pièces des opérations de tueurs à gages pour se mettre dans la peau des héros qu'ils ne sont pas et surtout sans jamais s'en cacher. Ils en parlaient ouvertement dans leur caserne, recrutaient même des camarades de chambrée Comment, dans ce cas-là, la hiérarchie de la DGSE a pu ignorer à ce point des dérives clairement assumées sous son toit? On comprend, en lisant Libération, que le suivi de ces agents ne se fait plus qu'en pointillé, et cela même quand leurs notes d'évaluation dégringolent au fil des années. Faillite managériale, dénoncent les avocats de ces wannabes espions. Faillite qui a donc coûté la vie à au moins un homme, un pilote de rallye corse qui a été assassiné par l'un de ses commandos. Une dizaine d'autres affaires sont en cours d'examen et au moins 4 militaires de la base de Sercotte sont aujourd'hui inculpés. Ça fait quand même un tout petit peu frissonner, Charlotte Barrican. On termine avec vous.
Eh bien, prenez un instant pour vous mettre en situation. On va se replonger dans les années 90. C'était la mode du 100% dénime. On dansait sur des tubes phares comme Wannabe des Spice Girls. Et il y avait un autre phénomène qui a vu le jour au même moment, le Tamagotchi. Il avait fait fureur à l'époque, hein, souvenez-vous, pour disparaître ensuite. Mais il s'apprête à faire son grand retour. C'est ce que nous annonce en tout cas le site Slate. Vous savez, le Tamagotchi, c'est ce petit jouet électronique en forme d'œuf venu tout droit du Japon avec un animal à l'intérieur. Il se mettait à crier dès qu'il était contrarié, qu'il avait faim ou soif. Il mourrait au bout de quelques jours si on l'oubliait, une vraie plaie pour les parents qui finissaient toujours par devoir s'en occuper.
Animal virtuel, hein, je précise, oui. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu le Tamagotchi dans leur cours de récré. À quoi il va ressembler, Charlotte Barrican, ce nouveau Tamagotchi?
Eh bien, la forme ne va pas changer, ça reste un œuf, mais la révolution, c'est qu'il sera équipé d'un appareil photo, ce qui lui vaut le nom de Pix, en rapport à picture, pour image en anglais. Il y a de nouvelles fonctionnalités, on peut cuisiner, peindre avec son animal et même se connecter avec d'autres utilisateurs. Bandai America, la société mère du Tamagotchi, annonce un déploiement de Pix en Amérique du Nord sur les deux prochaines années. Le prix en précommande, $59.99, soit environ 49€. Mm-hmm. En revanche, on ne sait pas encore quand il arrivera en Europe. Quand on y pense, au total, ce sont 82 millions de Tamagotchi vendus dans le monde depuis sa création en 1997.
82 millions.
Et on le sait, hein, la mode est un éternel recommencement. Alors Théo, c'est peut-être le moment de vous laisser tenter et de retourner un peu en enfance.
Vous aviez un Tamagotchi, Charlotte?
Bien sûr.
Bien sûr,
plusieurs.
Évidemment. Plusieurs même. Eh ben, vous pouvez relancer votre collection avec donc ce Pix qui arrive en Europe. On ne sait pas encore quand, mais sans doute qu'il fera des adeptes. Merci beaucoup, Charlotte, Axel, pour ce pressing. Je vous dis à tout à l'heure.